Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon vendredi. J'ai une suggestion pour vous pour la fin de semaine. Vous allez écouter le balado Devine qui vient luncher avec l'humoriste Alex Perron et l'animateur, chroniqueur et auteur Jean-Michel Dufault. Un petit extrait.
Avant, vraiment, l'homme québécois ou l'homme, il pleure pas, c'est un homme.
Ouais.
Prends sur toi, man up. Tu sais l'expression man up? Pense-y, comment c'est chargé pour l'homme. C'est
ouais.
beaucoup de pression pour l'homme, là. Man up.
Ouais. Non,
ça veut dire, faut que tu sois un monde. Ferme ta gueule, pleure pas, chiale pas. T'as pas d'émotion, man up. Fais un job.
L'homme hétérosexuel est pas mal plus malmené. Moi, je voudrais pas être hétérosexuel.
Richard le dit aussi des fois.
Pourquoi?
Ben,
c'est même trop compliqué. On vous demande d'avoir une barbe, mais qui pique pas trop. On veut que vous pleuriez, mais soyez l'homme de la maison pareil. Faites la vaisselle, mais en même temps, soyez capable d'aller enlever un écureuil sur
ouais,
le toit.
Oui, aller couper du bois en Abitibi aussi. Ouais.
T'sais, on veut que tu me prennes de façon virile,
oui.
mais fais-moi un gâteau le lendemain. C'est beaucoup de pression. Ses épaules, moi, je trouve.
J'aime ça que tu dis ça. Moi, je peux pas le dire, mais j'aime que tu dis
moi,
ça.
Moi, je trouve que l'homme hétéro a beaucoup de pression sur ses épaules.
Oui.
Puis qu'on y en demande pas.
Puis on mange aussi assez gaiement dessus.
Oui, tout à fait. Exact.
Alors, vous avez vu, c'est déjà... Ça, c'est un petit extrait. Imaginez une heure. C'est vraiment très bon. Vous allez pousser un grand... Ben, voyons donc.
Sophie Durocher.
Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
Est-ce que l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau devrait s'appeler plutôt l'aéroport Raymond Lévesque ou l'aéroport Félix Leclerc ou même l'aéroport René Lévesque? Ça a peu de chances d'arriver, évidemment, puisque les aéroports, vous le savez, sont de compétence fédérale. Mais après les révélations de cette semaine concernant vraiment des révélations explosives sur des demandes faites par Pierre-Elliott Trudeau à Power Corp et Paul Desmarais. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, dont mon collègue Antoine Robitaille. Bref, on va parler de tout ça avec Jean-François Lisée, ancien chef du Parti québécois, chroniqueur, auteur et journaliste. Jean-François, bonjour.
Bonjour, Sophie.
C'est quand même assez singulier et je pense pas qu'il y a beaucoup d'exemples à travers le monde de peuples qui a vécu une humiliation aux mains d'un politicien et qui a comme aéroport le nom d'un aéroport qui porte justement le nom de ce politicien-là. C'est un petit peu particulier la situation qu'on vit au Québec.
Ben, c'est particulier et c'est paradoxal parce que la fiche de Pierre Trudeau face aux Québécois est particulièrement noire. On peut parler d'octobre 70, on peut parler du rapatriement de la Constitution, on peut parler de tout ça. Mais en même temps, il y a des élections, sa meilleure élection, il y a eu 66% des Québécois qui ont voté pour lui.
Mais voilà.
Il y a un endroit qui devrait pas être nommé Trudeau, c'est bien l'aéroport parce que il voulait fermer Dorval. Trudeau a imposé au Québec un aéroport à Mirabel en promettant qu'il y ait un lien ferroviaire. Et là, la situation, Dorval n'était pas fermée. C'était les vols internationaux arrivaient à Mirabel. Puis si tu voulais faire un transfert pour un vol domestique, il fallait que tu te rendes à Dorval. Alors évidemment, tout le monde a dit « ça n'a pas de sens. Je vais aller à Toronto à la place. C'est beaucoup plus facile, à l'aéroport Pearson, de faire le changement. » Et donc, ça a été la pire décision qui a beaucoup nuit au développement économique international de Montréal pendant des années.
C'est vrai.
Et moi, j'étais conseiller de Jacques Parizeau et lorsqu'on voulait faire l'indépendance, j'avais dit un peu avec un sourire à M. Parizeau, je dis, vous savez, lorsqu'on soit indépendant, on devrait nommer l'aéroport Mirabel aéroport Trudeau et le lendemain, le fermer.
Hein? T'es un peu machiavélique toi-même, Jean-François.
Ben, ça aurait été
mais
un
j'aime bien
symbole.
L'idée. Oui.
Mais Sophie, je sais pas si tu te souviens de la consultation qui a eu lieu avant de désigner Dorval à l'aéroport Trudeau.
Je ne me rappelle pas. Rappelle-moi d'abord, c'était en quelle année?
C'était sous le règne de Jean Chrétien, donc ça a dû être... je sais pas, en 98, 99, okay. Dans ce coin-là.
Alors, j'étais au Québec à ce moment-là.
Il n'y a pas eu de consultation.
Il n'y en a pas eu, c'est pour ça?
Un matin, okay. Jean Chrétien s'est levé, puis a décidé de de nommer, parce que c'était l'aéroport de Montréal. Bon. Et donc, sans aucune consultation, c'était un fait du prince. C'est ça, après le décès, Monsieur Trudeau est mort en 2000, donc ça a dû être en 2001-2002, c'est assez récent finalement. Mais juste, même si on n'avait pas de débat sur le mépris de Trudeau pour le Québec, puis qu'il fallait trouver un lieu, le lieu ne devrait pas être l'aéroport auquel il a nui pendant toute sa vie.
C'est ça. Mais c'est très bon que tu rappelles ça, que tu rappelles plusieurs choses. Bon, en fait, le fait qu'il n'y ait pas eu de consultation, évidemment, et le fait que si on voulait rendre hommage, parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui a été démocratiquement élu, qui a quand même été au pouvoir de 68 à 84, bon, avec une petite interruption avec Joe Clark, mais c'est quand même quelqu'un qui, indéniablement, a apporté quand même beaucoup de choses... beaucoup de choses à la Confédération, disons ça comme ça. Si on s'enlève du petit nombril québécois, là, bon, bien sûr, la crise d'octobre et le rapatriement unilatéral de la Constitution en 82, je veux bien, mais il y a aussi du positif, il n'y a pas que du passif dans son bilan. Donc, mais si on voulait lui rendre hommage, l'aéroport est certainement pas la bonne façon de le faire. Bon. Mettons que demain matin, on obtenait l'accord du fédéral, parce que c'est de compétence fédérale, pour changer le nom de l'aéroport. Qu'est-ce que toi tu suggères? Parce que j'ai vu beaucoup passer le nom de Monsieur Parizeau, justement, que tu viens de mentionner. Est-ce que ce serait le bon nom à donner à l'aéroport?
Il faut que ce soit un grand Montréalais, c'est sûr, parce que c'est l'aéroport de Montréal. Oui, moi je pense que Jacques Parizeau, ce serait bien, mais même dans un Québec souverain, disons dans les premières années d'un Québec souverain, c'est pas un nom consensuel. Alors non. Moi j'irais pour, tu sais, plus déjà que Trudeau, c'est très polarisant. Pourquoi prendre un nom polarisant? Essayons de trouver un grand Montréalais qui est pas polarisant. Et je sais pas lequel.
Ah, t'as pas de réponse. Je pensais que tu posais la question et que tu avais la réponse parce que ça aurait pu être, mettons, l'aéroport Céline Dion. Mais c'est dommage parce qu'il faut que la personne soit décédée. Donc ça marche pas. Donc c'est pour ça que moi je proposais Félix Leclerc ou tu comprends?
Félix est de Québec, hein? Il est de Québec.
Ah oui, c'est ça. C'est un plus. Ouais.
Mais on n'est pas obligé de décider ce matin, Sophie. On peut faire une grande consultation.
Voilà.
On peut mettre des noms dans la balance. On peut demander à des gens de faire des propositions. Tu sais, on peut faire ça correctement pour une fois, justement, pour faire le contraire. Maintenant, sur Trudeau, moi, je veux rappeler une chose, là, qui m'avait beaucoup frappé.
Oui,
c'est
vas-y.
Que lorsqu'il était jeune, dans la trentaine, à Cité Libre, il avait écrit un texte en disant que les Québécois étaient un petit peuple de maîtres chanteurs. Tu sais? Alors on se dit c'est le mépris et l'arrogance du jeune intellectuel. Alors mais ensuite en 1992, il est sorti de sa retraite pour lutter. Il l'avait fait contre Meech et ensuite contre Charlottetown et il a dit les Québécois sont toujours un petit peuple de maîtres chanteurs. Donc après toute sa vie politique et la maturité et on aurait pensé la sagesse, il continuait à dire tout le mépris qu'il avait pour le Québec. Il disait ça parce qu'on demandait des pouvoirs. Puis pour lui, on était des maîtres chanteurs. Alors, tu vois, c'est rarissime d'avoir quelqu'un qui, après toute sa vie, méprise son peuple d'origine et le dit comme ça, sans inhibition. C'est vraiment terrible.
Et tu l'expliques comment, ce mépris-là? Ce mépris-là pour son propre peuple, tu l'expliques comment c'est que l'exemple que tu donnes est très bon, c'est que même après toutes ces années, il a réutilisé les mêmes mots, donc c'était viscéral, et tu l'expliques comment?
Il a développé très tôt une hantise face au nationalisme, d'abord qui était ancré dans sa lutte contre Duplessis, et il considérait que tout nationalisme québécois était néfaste. Et il voulait construire à la place le nationalisme canadien. Il tenait pour acquis que les Québécois, puis ça c'est dans ses écrits dans les années 50, là, je connais ça un peu parce que mon prochain livre c'est sur la relation Trudeau-Lévesque, alors je suis plongé là-dedans.
Ben oui.
Et donc il considérait que les Québécois étaient fondamentalement incapable d'être des démocrates. Et puis tout ce qui faisait en sorte de faire se replier le Québec sur sa spécificité était négatif et il fallait nécessairement l'ouvrir sur les autres. Mais ça pouvait pas se faire à travers l'État du Québec, et ça devait se faire à travers l'État du Canada. C'est comme si les Québécois, pour lui, n'avaient pas la capacité d'être des adultes politiques, et il fallait nécessairement qu'il y ait la béquille du reste du Canada pour les sortir de leur situation d'infériorité. Alors, c'est même André Laurendeau, l'éditorialiste du Devoir, l'intellectuel à l'époque, avait noté comment c'était méprisant, puis c'était ne pas faire confiance à la capacité des Québécois de s'épanouir. Mais c'était ça, fondamentalement, l'idée de Trudeau. Ça l'a toujours habité.
Incroyable. Bon, je tiens à rappeler, et je veux pas te demander de te prononcer là-dessus, mais je veux juste finir cette partie-ci du segment en parlant de ça. Donc, cette bombe qui a explosé, hein, cette nouvelle qui est une exclusivité de CBC Radio-Canada, Elizabeth Thompson, qui a donc eu accès à ces câbles diplomatiques entre l'ambassadeur des États-Unis au Canada et Washington, qui détaille donc les demandes de Pierre Elliott Trudeau à Paul Desmarais. Donc, ça a été amplement couvert quand c'est sorti dans les médias anglais et dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, évidemment. Et il n'y a rien eu, pas une ligne dans la presse. Et ce matin, dans la presse, Patrick Lagacé se permet de nous dire, ben, on l'a échappé, on ne l'a pas vu, la nouvelle. Je fais juste dire ça. Je sais pas. C'est quand même assez singulier qu'une bombe explose quelque part dans ce beau grand pays qu'est le Canada et que à la presse, je sais pas, il y a un microclimat et personne n'avait vu cette nouvelle-là. C'est quand même assez particulier. Bon, passons à notre autre sujet, Jean-François. On a parlé, quand on s'est parlé la dernière fois, on s'était parlé du REM et t'avais dit tout le mal que tu pensais de ce projet-là. Mais là, Valérie Plante est peut-être en train de changer d'opinion, mais de modérer son opinion.
Il y a vraiment un genre d'épreuve de force, une épreuve de force sur la place publique entre la Caisse de dépôt et la Ville de Montréal sur la possibilité de s'éviter cette monstruosité d'un segment aérien sur René Lévesque et plutôt de l'enfouir. Alors, le conseil municipal, il y a déjà quelques semaines, a voté une motion disant qu'il fallait étudier ces possibilités-là. C'est sûr que c'est là qu'ils veulent aller. On voit bien que la ville a signé l'entente de principe au début en se disant, bon, ben, chemin faisant, on va obliger la caisse à ajouter 1,5 milliard pour enfouir cette partie-là parce que ça n'a pas de sens. Puis tu as vu, entre-temps, ben, on en avait parlé, je pense qu'il y a deux firmes d'architectes qui ont refusé de participer à l'appel d'offres parce qu'ils trouvent que ce serait trop mauvais pour leur réputation d'avoir leur nom associé à une telle folie. Mais là, donc, la caisse a réagi en disant dans une entrevue à la presse que ils avaient fait les études de faisabilité d'avoir ce segment-là en souterrain et que c'était juste impossible que parce qu'il y a deux lignes de métro qui passent là déjà. Les égouts, ça, il y aurait des risques d'effondrement, non seulement d'une des lignes de métro existantes, mais aussi d'un des immeubles sur le tracé. Alors, donc, c'était l'artillerie lourde, là, tu sais, c'était vraiment... Oui. Et ils ont dit, ça coûterait tellement cher que ça mettrait en péril le bas de laine des Québécois, qui est quand même de 365 milliards, alors ça mettrait en péril le bas de laine. Et là, la mairesse est sortie en disant, écoutez, d'abord, on aimerait ça les voir, ces études-là, parce qu'on ne les a pas vues.
Et ça, c'est hallucinant.
C'est hallucinant. Et nous, à la Ville, on est prêts à vivre avec un niveau de risque peut-être un peu supérieur à celui de la caisse. Ce qui est déjà intéressant parce que, ben là, ça dépend. Est-ce que ton niveau de risque, c'est un immeuble qui s'effondre ou seulement une ligne de métro? Bon.
À partir de combien de morts t'es capable d'assumer un niveau de risque? Là, c'est vraiment, c'est très singulier.
C'est ça. Mais donc, ouais, elle parle évidemment dans l'hypothèse pure parce qu'elle n'a pas vu ces études-là. Et là, il y a des architectes, des ingénieurs qui disent, ben écoutez, la caisse s'était engagée au moment de l'annonce il y a 2 mois à réunir un comité aviseur pour revoir ces choses-là. Puis le comité n'a pas été créé. Alors, ce qui fait que la Caisse continue à travailler sur ses études, etc., sur ses devis, en vase complètement clos. Ça pose un énorme problème. Évidemment, tout le monde se rend compte, puis j'espère qu'au bureau du premier ministre Legault se rende compte qu'il y a un grave problème d'acceptabilité sociale qui est en train de se développer sur ce projet-là, et qu'ils ne pourront pas, enfin, c'est toujours possible, de dire, ben, c'est ça ou rien. Alors, vous pouvez chialer tant que vous voulez, mais la caravane passe, hein, dans ce cas-là, le REM passe. Mais il y a vraiment, et les citoyennes Mercier, par exemple, sont en train de s'organiser. Ça va devenir une controverse énorme, la grande controverse montréalaise des prochaines années.
Ouais, et c'est quand même quand tu parles de bras de fer entre la mairesse et la caisse, c'est pas évident parce que quand même, tu l'as dit, hein, c'est toujours important de le rappeler. La caisse, c'est le bas de laine des Québécois. D'ailleurs, on vient d'apprendre qu'ils ont eu une performance quand même pas trop mal l'année dernière, 7,7%. C'est quand même pas mal. Mais tu sais, c'est vraiment deux forces en présence là qui s'affrontent. Et je pense en effet que ta prévision est juste et qu'au cours des prochaines semaines, ça va être le gros sujet de discussion parce que personne n'a envie de voir un centre-ville défiguré. Personne n'a envie non plus de voir des buildings s'effondrer au centre-ville. Alors, qui dit vrai? Mais en tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir les études de la Caisse. Écoute, Jean-François, il nous reste quelques minutes ensemble. Je vais te lancer sur un sujet qui n'était pas prévu ce matin, mais vu que c'est quelque chose dont beaucoup, beaucoup de gens parlent, tu penses quoi de ça, toi, cette idée-là qui a commencé à être discutée très sérieusement au gouvernement hier en conférence de presse, Christian Dubé en a parlé, d'un passeport qui serait émis aux gens qui sont vaccinés. Est-ce que toi, tu te sentirais à l'aise avec cette solution-là?
Je pense que c'est indispensable. C'est d'abord indispensable parce que certains pays s'organisent pour réclamer le passeport vaccinal pour entrer dans leur pays. C'est le cas d'Israël. Plusieurs pays européens sont en train de l'installer. Alors, donc, il faudra que les Québécois, les Canadiens qui veulent aller là puissent l'avoir. Donc, il faudra les mettre de toute façon.
T'as raison.
Ensuite, la question, c'est, bon, si on a un passeport vaccinal, est-ce que si 75% de la population est vaccinée d'ici le mois de septembre, ce qui est possible, puis il y a un autre 25% qui ne veulent pas être vaccinés. C'est leur choix, hein, c'est pas obligatoire. Mais est-ce que, dans ce cas-là, si ceux qui veulent aller au cinéma ou au spectacle et ne veulent pas... Le problème, c'est pas que les vaccinés vont tomber malades. Ils ne tomberont pas malades, ils sont protégés. C'est que les non-vaccinés peuvent tomber malades, aller dans le système de santé et là coûter des sous. Alors, voilà. C'est une décision de dire, ben nous, on s'est vacciné, on ne veut pas payer pour les soins de ceux qui utilisent leur droit à ne pas être vaccinés. Ça fait que, donc, nous, on voudrait pouvoir aller au cinéma sans masque, sans distanciation, puis au bar, puis au restaurant. Ça fait que la seule façon, c'est de dire, ben écoutez, vous avez choisi de ne pas être vacciné, c'est votre choix, on le respecte, mais
là, il y aura
vous
des pouvez conséquences.
Pas vous mettre en situation d'être malade. Il y a des conséquences.
Voilà. Voilà.
Moi, je peux et vivre c'est... avec ça. Je comprends que c'est controversé, mais c'est une décision majoritaire. La minorité ne peut pas imposer à la majorité les conséquences de son choix de ne pas être vacciné.
Parce que c'est assez singulier quand même, parce que Gabriel Nadeau-Dubois, on a fait vraiment un cheval de bataille, là, je le vois, il y a beaucoup, beaucoup tweeté là-dessus, puis il en a parlé aussi, évidemment, mais ils disent à Québec solidaire que c'est une discrimination, mais c'est pas une discrimination. Une discrimination, c'est si on disait on ne vaccine que telle personne et telle personne, on refuse de la vacciner ou on ne donne un passeport qu'à telle personne ou on fait une discrimination. Là, c'est les gens qui se discriminent eux-mêmes. Ils se soustraient au bien commun. Donc, ils sont en train de s'auto-discriminer. Je vois pas en quoi ça crée une discrimination. Ça ne crée pas deux classes de citoyens. Ça crée une classe de citoyens. On dit, vous devez vous faire vacciner pour le bien commun. Si vous décidez de vous soustraire, ben vous n'avez pas le droit aux nananes. Je trouve que c'est correct. C'est comme ça qu'on vit en démocratie.
Mais ça va plus loin, hein, parce que le Code du travail tel qu'il existe en ce moment c'est qu'un employeur ne peut pas obliger un salarié à être vacciné, mais un employeur peut décider que seuls les gens vaccinés viendront au travail, c'est-à-dire que le salarié peut perdre son emploi s'il ne se conforme pas à la règle sanitaire du patron. Ça, c'est le cas en ce moment. Il faudrait modifier le code du travail lorsque tout le monde sera vacciné pour permettre un accommodement. L'entreprise peut décider de laisser venir les non-vaccinés puis de faire un régime particulier pour eux, mais il peut décider aussi que, pour des raisons sanitaires, il choisit de ne pas le faire. Alors, ça va être un énorme débat. Évidemment, il y a des gens qui vont trouver ça injuste. Les non-vaccinés vont rouler dans les brancards, c'est sûr. Ils vont avoir des gens qui vont porter leur parole. Peut-être ça va être Québec solidaire. Puis il y a des gens qui vont dire, ben là, on peut pas exclure. Voilà. C'est pas, moi, ma position est assez ferme, mais je comprends que ça passera pas comme du beurre dans la poêle.
Ouais, comme une lettre à la poste. Merci beaucoup, Jean-François. Puis, écoute, moi, je suis prête à me faire vacciner demain matin, et puis le passeport, en haut et dedans.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il faut que je vous fasse une confession. Je fais des fois des blagues en parlant des notaires, en disant que c'est une job banale, ordinaire. Tu sais, quand on dit simple comme un notaire ou c'est comme un peu comme un gérant de caisse populaire. Mais dans le fond, je suis fascinée par ce métier-là parce que je trouve que c'est des gens qui interviennent dans nos vies vraiment à des moments clés. Et parmi les notaires, il y a vraiment une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que chaque fois que je parle avec elle, elle me fait beaucoup rigoler. Elle s'appelle Marie-Josée Saint-Laurent, elle est auteure, conférencière et notaire. Et là, elle publie un nouveau guide qui s'intitule « Si je meurs, pour un testament parfait ». C'est pour nous aider donc à mieux confectionner les testaments. Maître Saint-Laurent est au bout de la ligne. Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour Sophie, ça allait bien jusqu'à temps que tu m'appelles maître.
Oh oui, maîtresse, excusez-moi.
Je déteste ce titre. Hey, écoute, ça va faire 30 ans que je suis notaire. En juin, et je n'ai jamais assumé ce titre-là que je trouve trop prétentieux. Donc oui, je me fais appeler la maîtresse à la blague, mais Marie-Josée ou notaire, la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils m'appellent.
Bon, ben Marie-Josée, ça va être tellement plus simple. Marie-Josée, je vous ai fait à plusieurs reprises, j'ai fait des entrevues avec vous et on en a parlé souvent de cette particularité-là, des gens qui commencent leur phrase en disant « si je meurs, je voudrais donner de l'argent à telle et telle personne », comme si c'était une option, comme si on avait l'option de pas mourir. Alors, c'est le titre que vous avez décidé de donner à votre livre. Pourquoi?
Ben, en fait, c'est là, justement, quand je rencontre les gens pour prendre mes renseignements, pour faire leur testament, c'est systématique. Ils me disent, oui, notaire, mais si je meurs, là, tu sais, à moins d'une personne qui est décomptée, là, qui sait qu'il va mourir dans quelques jours, parce que oui, ça arrive aussi, ça, que je vais les rencontrer, ben, c'est ça que les gens me disent. Ouais, mais si je meurs. Et moi, ça me fascine à tout le temps, parce que justement, c'est comme tu l'as dit, c'est comme si... Hey, on va se tutoyer, Sophie, si tu le veux bien. Et donc, ça me fascine parce que l'humain se croit vraiment éternel, tout ça est inconscient, mais je vous informe peut-être en vous disant que la vie est un contrat par lequel on ne s'en sort pas vivant. Donc oui, on va tous mourir. J'aimerais ça rester sur la Terre, Sophie. J'aimerais tellement ça.
Ben oui.
Parce que moi, je veux vivre jusqu'à 120 ans en forme avec une qualité de vie à 100%. Moi, je veux ça dans la vie. Puis, tu sais, j'aimerais ça être éternel. Mais on le sait que ça se peut pas. Mais on peut quand même vivre assez longtemps. Et on fait, faut faire quoi, par contre. Et c'est ce que je fais. Je m'efforce de faire des choses du mieux que je peux pour rester en vie longtemps.
Parce que on comprendrait quelqu'un qui vient vous voir, qui vient te voir pour un contrat de mariage, puis qui dit si je divorce, parce qu'en effet il y a la possibilité que tu divorces pas, mais tu peux pas dire si je meurs, parce que bon, c'est plutôt quand je vais mourir. Bon, c'est quoi le plus gros problème, la plus grande réticence, la plus grande crainte que les gens ont quand vient le temps de faire leur testament? C'est quoi leur plus grande peur?
Ben, c'est de parler de la mort, justement, parce que les gens se croient éternels inconsciemment. La mort, c'est pour les autres. Les accidents, c'est pour les autres. Donc, moi, mon but dans la vie, ma mission dans la vie, Sophie, c'est de vulgariser l'information pour que les gens apprivoisent la bibitte qu'est le notaire. Et je sais, j'en suis une. D'ailleurs, je me fais appeler notaire pas ordinaire. Je sais que je suis une bibitte, mais cette bibitte-là, elle mord pas. Puis, c'est sûr que quand on va... tu sais, quand on va chez le dentiste, Sophie, on n'aime pas ça. Hein? Ou quand on va chez le médecin, ça nous tente pas d'aller là. Mais on le sait que c'est nécessaire. Ben, le notaire, c'est la même chose. Et dans le fond, moi, ma mission dans la vie, c'est de vulgariser l'information pour que les gens apprivoisent le notaire. Et mon but dans la vie, c'est que les gens... Je te dis pas, Sophie, je vais faire tous les testaments du monde entier, mais j'aimerais beaucoup que les gens fassent leur testament, bien évidemment notarié, parce que je prêche pour ma paroisse, mais l'idée, c'est que les gens aient mis par écrit leur volonté, parce que ça m'arrive tellement trop souvent de régler les successions de gens que je sais très bien que c'était pas ce qu'ils voulaient, que la loi s'est chargée de leur dernière volonté alors qu'ils auraient pu le faire. Donc, le but de mon guide, ben c'est tout ça, c'est de vulgariser l'information, c'est de divertir les gens, oui, parce que ce sont des anecdotes qui se sont réellement passées dans mon bureau, qui parlent de testament, mais le plus de ce guide-là, c'est qu'à la fin, il y a un questionnaire détachable, et au fur et à mesure que les gens lisent mon guide, qui est composé d'anecdotes, ben ils s'enrichissent en même temps qu'ils se divertissent, et à la fin, au fur et à mesure, ils peuvent remplir les questions que le notaire leur poserait s'ils iraient chez le notaire. Voilà. Donc, ce guide-là remplace un peu, je dis bien un peu, la première rencontre si stressante avec le notaire dans le but de faire leur testament.
Voilà, parce que c'est tellement plus rassurant de le faire dans le confort de la maison, parce que ça nous donne le temps, versus on est dans le bureau du notaire, il nous dit, bon, ben qu'est-ce qui arrive si, par exemple, je pense aux familles recomposées, hein, à quel point c'est compliqué, quand on a eu des enfants d'une union précédente, on a eu des enfants dans une nouvelle union, on veut que ce soit équitable, puis quand le notaire nous dit, bon, ben si vous mourez avant votre ex-conjointe, comment vous faites pour... Tu sais, c'est toutes des questions extrêmement difficiles, puis ça peut devenir très émotif. Moi, je le sais, ça m'est déjà arrivé de partir à pleurer dans le bureau d'un notaire parce qu'il me posait des questions. C'est des scénarios que t'as pas envie d'envisager. Tu sais, quand on dit, ben si vous mourrez dans le même avion que votre conjoint, puis que votre enfant se trouve orphelin, écoute, je t'ai plus arrêtable, toi. Une vraie Madeleine.
Ben Sophie, je vois ça continuellement, parce que malheureusement, c'est nous autres c'est moi qui fais réaliser ça aux gens, que ça peut arriver. Tu sais, on souhaite pas ça dans la vie, mais ça peut arriver. Bon, oui, ça m'arrive souvent d'accompagner les gens, effectivement. Et je peux te dire, Sophie, que souvent les gens je vais dire en bon québécois, ils se tapent des cartoons avant de venir me voir.
Ils
font tellement des scénarios, là, puis ils se compliquent la vie, là, puis ils voient ça comme une montagne. Mais c'est drôle, parce que une fois qu'on a jasé ensemble, ben tout ça est dessoufflé, là. La grosse montagne, là, est rendue plate, parce que je leur ai simplifié ça. Et finalement, ils sortent de mon bureau beaucoup moins stressés.
D'accord.
Mais mon guide, ça sert à ça.
Oui, ça sert à ça. Et qu'est-ce que tu penses de toute cette tendance-là qui existe, qui est présente? Il y a même des livres qui sont écrits là-dessus. C'est « die broke », c'est-à-dire mourir en ne laissant rien derrière vous. Puis l'argent que vous avez, profitez-en pendant que vous êtes vivant. Puis c'est pas grave si vous laissez strictement rien du tout aux gens une fois que vous mourrez. Qu'est-ce que tu en penses de cette tendance-là?
Ben moi, je suis totalement en accord avec ça. C'est pas... c'est pas une obligation légale de laisser quelque chose en bout de ligne. C'est sûr que j'accompagne des gens qui renoncent aux successions de leurs parents, à la succession de leurs parents parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est une honte, beaucoup. Moi, j'arrête pas de leur dire, ben voyons, c'est pas vous qui êtes décédé sans argent, c'est votre mère ou votre père, ou peu importe.
Ouais.
Et c'est probablement leur choix, ou peu importe. Mais une chance, au moins, on a l'occasion de refuser ces successions-là.
Si elle dette, c'est ça.
Là, ouais. Qui a gagné cet argent-là, elle a bien le droit de faire ce qu'elle veut avec.
Mais ça, c'est important que tu rappelles ça, Marie-Josée, parce que moi, je me souviens, il y a plusieurs années de ça, il y avait quelqu'un que je connaissais qui était extrêmement fâché parce que quand son père était décédé, il avait appris que son père donnait de l'argent, genre à ses des cousins, des oncles, des tantes, et que sa portion qui lui revenait à lui en était réduite d'autant. Puis il était hyper fâché contre son père. Puis j'arrêtais pas de lui dire, tu sais, un testament, ça s'appelle les dernières volontés. Puis le mot-clé, c'est le mot volonté.
Ben, tu peux pas oublier. Pourquoi que cet enfant-là, il connaît pour acquis que son père, il donnerait de l'argent?
Ben oui.
Tu sais, à quelque part, là, si son fils, il est jamais allé le voir, puis il s'en est jamais occupé, mais que d'autres gens qui venaient le visiter puis qui s'en occupaient. Moi, les gens, souvent, quand je prends les renseignements pour faire leur testament, une fois qu'on a décidé, bon, le couple se lègue l'un l'autre leurs biens, s'ils sont pas là, ce sont leurs enfants, etc. Puis là, la catastrophe arrive. Si tout le monde part, à qui vont vos biens? Là, ils sont là puis ils me regardent. Là, je leur mets ça dans une autre phrase. Qui mérite de recevoir ce pourquoi vous avez travaillé toute votre vie?
Bonne question.
C'est la question. Donc, tu sais, c'est pas parce que c'est tes enfants. Le lien de sang, là, ben, ça reste bien rien qu'un lien de sang. Il y a des gens qui sont encore des fois plus significatifs que tes proches, que tes liens de sang, en fait. Parce que eux autres, ils ont vraiment à cœur ton bien-être. Mais là, faut faire attention aussi. Par contre, Sophie, faut voir s'ils font pas juste ça pour justement, là, avoir l'héritage, là, des suceux d'héritage qu'on appelle, là, en bon québécois. Donc, tout ça se démystifie. Mais écoute, mais justement, c'est à nous à voir à ce que nos volontés soient mises par écrit et respectées et appliquées selon ce que nous on veut. Puis au diable, les candidatons, la personne est décédée, puis si elle est morte en paix avec ses choix, ben tant mieux, c'est ça le but.
Voilà, c'est ça. Mais moi, j'insiste tout le temps là-dessus. Dernière volonté, ben c'est des volontés, puis c'est ce que la personne veut, puis elle peut toujours bien faire ce qu'elle veut avec cet argent, surtout si elle l'a gagné de façon respectable. Qu'est-ce que la pandémie a changé dans l'attitude de tes clients face à leur testament? Est-ce que ça a changé quelque chose?
Oui, les gens sont beaucoup plus enclins à le faire, mais ça a changé quelque chose dans ma vie à moi, parce que j'ai élaboré justement des programmes en ligne aussi en parallèle avec mon guide, des programmes en ligne qui se font à la maison, donc comment préparer votre testament dans le confort de votre foyer et à votre rythme. Alors ça aussi, ça remplace la première rencontre chez le notaire. Donc c'est un programme en ligne qu'on achète et qu'on regarde. C'est des vidéos, je fais des petites mimiques et j'explique tout ça comme si les gens étaient dans mon bureau. Mais tu sais, ils ont le pouvoir de réécouter et de revisionner et tout ça avec le même questionnaire en PDF qu'ils peuvent imprimer et remplir aussi. Et suite à ça, ils communiquent avec moi et on finalise tout à distance.
Bon, c'est
les
super.
Gens, avec la pandémie, ça a eu du bon. Et moi, là, Sophie, là, je travaille encore avec une dactylo. Puis c'est pas une joke. Là. J'ai vraiment une dactylo dans mon bureau. J'ai pas d'Internet sur mon cellulaire, par choix. Je suis réticente au changement au possible. Peut-être que ça a rapport avec ma profession. Je ne sais pas. Mais je suis une contradiction sur deux pattes. Je suis notaire par ordinaire. Imagine, j'ai une dactylo. Donc, mais tout ça pour dire que je me suis bottée le cul en bon québécois et j'ai mis la technologie au service des gens et à mon service aussi pour pouvoir encore plus réaliser mon but, soit que les gens aient un testament en bonne et due forme.
C'est quoi l'anecdote la plus drôle, l'affaire la plus drôle qui t'est arrivée, que t'as pu constater par rapport à des gens qui faisaient leur testament?
Ben, écoute, j'en ai plusieurs, mais il y en a une qui me frappe encore plus. Ce sont deux frères aveugles qui restent dans le fin fond d'un rang, là, au milieu de nulle part. Je suis allée les rencontrer pour faire leur testament. Et eux m'avaient connue parce que j'étais chroniqueuse à la radio et à la télé dans mon patelin. Je faisais des chroniques juridiques. Et à toutes les semaines, le plus vieux des deux frères m'appelait parce que eux autres, leur seul loisir étant aveugle, était d'écouter la radio. Et à chaque semaine, il m'appelait après ma chronique pour me dire à quel point il aimait donc ça, puis que je les faisais donc rire, puis que je les... Il trippait bien raide sur moi, là, ouais. Québécois. Et quand je suis allée les voir, moi, je les voyais, mais eux me voyaient.
Les voir, ouais.
C'est quelque chose d'aller rencontrer des gens aveugles, hein. C'est toute une réalité qu'on peut pas s'imaginer. Et dans mon guide, ben, je raconte cette anecdote-là, comment, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui voit, quelqu'un qui voit pas, et toutes les constats que j'ai faits durant ces deux rencontres-là, parce que je suis allée deux fois, la première fois pour prendre les renseignements et la deuxième pour aller sur la signature. Et c'est deux personnes extrêmement comiques. J'ai eu beaucoup de plaisir à les côtoyer. Puis c'est ce que je raconte dans mon guide. C'est vraiment drôle, là. C'est vraiment, vraiment comique. Je rapporte leurs propos par rapport à leur vie, puis ils appelaient leur sœur les petites maudites. En tout cas, écoute, c'est drôle, c'est hilarant. Et malheureusement, il y a un des deux frères qui est décédé. Et je raconte aussi cette deuxième portion-là, quand j'ai eu à régler la situation avec le frère qui reste. Mais il avait fait leur testament, donc le frère était
protégé,
en paix, parce qu'il avait fait ses dernières volontés.
Oui. L'affaire la plus triste, parce que bon, ça crée des fois des chicanes. On l'a vu, il y a eu un cas récemment, un monsieur qui était décédé, qui avait laissé des millions de dollars à sa femme et ses deux fils, et un des deux fils était nommé exécuteur testamentaire, et en fait, il a fait signer des papiers aux autres membres de sa famille, et il s'est créé en parallèle une petite compagnie, et en fait, des millions de dollars sont allés dans cette compagnie-là. Ça crée aussi parfois des tensions. Donc, l'histoire la plus triste qui t'est arrivée par rapport à des gens qui avaient fait un testament?
Je veux juste rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire. Moi, la réaction que j'ai en premier, c'est « Mon Dieu, c'est mon Dieu qu'on est capable de dormir. » Comprends?
Ouais. Okay. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais.
La plus triste, écoute, j'ai eu à faire un tirage au sort. Lors du décès de la mère, ouais. En fait, son argent a servi à payer tous ses frais funéraires et tout ça. Il en restait plus après. Et il restait trois biens de peu d'importance, mais d'importance sentimentale. Ils étaient sept. Il restait un pouf, un pendentif et un manteau de fourrure qui avait vu la guerre, qui avait fait la guerre. Ben là, j'ai pas eu le choix de faire un tirage au sort et c'était épouvantable. Ces gens-là ne se parlent pas encore aujourd'hui, ça fait 20 ans.
T'es pas sérieuse.
Ouais.
Ils se parlent pas parce qu'il y en a un qui est jaloux d'un pendentif ou d'un pouf tout incroyable.
Je les avais avertis au début, là. C'est sûr qu'il y en a qui vont sortir pas contents, là. Il y a trois choses, puis vous êtes peut-être... Non, c'est pas grave. C'est eux qui ont choisi, parce que moi, je leur avais donné plusieurs options. Puis ils ont dit non, c'est correct, c'est ça qu'on veut, parce qu'ils auraient pu vendre ces biens-là, même s'il y avait peu de valeur monétaire, mais ils ne voulaient pas justement parce qu'il y avait une valeur sentimentale. C'est ça. Ils ont choisi le tirage au sort, mais après ça, ça a été vraiment triste. Et c'est ça. C'est, ils ne se parlent pas encore.
La fin de la famille. Ben écoute, on a très hâte de lire ça. Donc, ton guide s'intitule « Si je meurs, trois petits points de suspension pour un testament parfait ». Et oui, on le rappelle, on va tous mourir un jour. Je suis désolée de vous le rappeler aujourd'hui, 26 février 2021. Mais c'est le sort qui nous attend tous. Autant être bien préparé. Merci beaucoup, Marie-Josée Saint-Laurent, auteure, conférencière et notaire. C'est toujours un plaisir de te parler.
Culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
On connaît tous le principe de l'aide médicale à mourir, mais ce qui se discute ces jours-ci, c'est l'aide médicale à mourir sur demande préalable, c'est-à-dire qu'en prévision d'un moment où vous allez vous ne serez pas en état de prendre une décision, ben vous décidez à l'avance, donc de façon préalable, de recourir à l'aide médicale à mourir. Ça provoque évidemment beaucoup de discussions, beaucoup de réactions. Et justement, il y a une lettre ouverte de professionnels qui soignent des Canadiens atteints de démence qui a envoyé cette lettre ouverte pour dire attention, attention, mise en garde. Une lettre ouverte aux membres du Parlement canadien. On va en parler avec un des signataires de cette lettre, le Dr Félix Pageau, qui est médecin gériatre. Bonjour, Dr Pageau.
Bonjour.
Je comprends en lisant votre lettre que vous et les gens qui signent cette lettre, vous êtes très, très, très réticents. C'est quoi le danger, selon vous, à ce principe d'aide médicale à mourir sur demande préalable?
Oui, ben en fait, nous, le malaise qu'on ressent, c'est vraiment sur la question de fonds au Québec. On a vu là, avec la COVID, les personnes vulnérables ont été principalement touchées, là, comprenant les gens en CHSLD, les gens en situation qui vivent en situation d'handicap, les gens qui sont qui ont reçu des soins palliatifs. Tous ces services-là ont été coupés dans les dernières années. On a réduit les coûts par les gouvernements précédents, puis on a coupé les services. Ça fait qu'on a moins bons services. Puis les gens ont peur de se retrouver dans une situation où ils n'auront pas les services, avec raison. Donc nous, ce qu'on dit, c'est au lieu de proposer un soin qui, en fait, n'en est pas un, qui est carrément de tuer le patient, on propose plutôt d'avoir des soins adaptés à la situation. L'autre chose aussi, ce qu'on fait prévaloir là, souvent, c'est la question de l'autonomie. Puis ça, on est d'accord comme médecin, c'est le patient qui doit décider. Mais le problème avec la démence, c'est que l'autonomie décisionnelle n'est plus là. Fait que avoir le contrôle puis de choisir à l'avance quand on est rendu avec la maladie assez avancée où on aurait possiblement besoin d'un médicament à mourir, bien, l'autonomie décisionnelle n'est plus là. Puis c'est la famille, les proches, les médecins, l'équipe médicale qui décident à la place la personne. Puis, comme vous savez, bien, il y a toutes sortes de conflits dans une famille qui peut arriver. Désir d'héritage, désir d'avoir les biens. Il y a aussi les médecins, on a besoin des lits, on a besoin de libérer des lits en CHSLD. Donc, il peut y avoir toutes sortes de conflits d'intérêts. Ça, c'est dans le pire des cas. Au mieux, bien, la famille peut vivre beaucoup de culpabilité d'avoir condamné la personne à avoir ce soin-là. Puis, de sentir aussi que le deuil va être compliqué. Oui. Puis, ce qui arrive, c'est que les gens en démence, ben ils ont des troubles de comportement, de l'anxiété, puis tout ça qu'on voudrait traiter, mais en même temps, imaginez la dame qui a une démence avancée, qu'on lui dit, ben venez madame, là, c'est le temps de vous faire le soin, c'est le temps de faire l'injection, là, puis là, il faut expliquer, c'est l'injection pour mettre fin à ses jours, mais elle s'en souvient pas d'avoir signé ses directives médicales anticipées il y a 5, 10, 15 ans plus tôt. Donc, ça peut créer beaucoup de malaise sur l'équipe parce qu'on va attacher les gens pour faire des injections létales. Moi, c'est ça, et moi, toutes les gens qui signent, c'est ces malaises-là qu'on voit venir, là.
Ça, je trouve ça intéressant. Ça, le dernier point que vous venez d'amener, où quelqu'un, en effet, qui est en état de démence avancée, ne se rappelle évidemment pas avoir signé les documents. Mais je veux juste revenir en arrière, parce que vous m'avez donné beaucoup, beaucoup d'informations, puis je trouve ça très intéressant, parce qu'on va pouvoir discuter, justement, de tout ça. Oui. Alors, vous nous dites que les gens qui vont signer cette aide médicale à mourir de façon préalable, c'est parce que c'est des gens qui ont peur, quand ils regardent l'avenir, se disent, ben au moment où je vais être très atteint, je n'aurai pas le droit à des soins appropriés. Ben, est-ce qu'on peut les blâmer vraiment? Parce que en effet, non. En l'état actuel des choses, les soins ne sont pas bons. Alors, est-ce qu'on peut empêcher les gens d'avoir cette peur-là qui est, disons-le, qui est une peur légitime, Dr Pageau?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait. T'sais, comme je vous dis, moi, je suis très empathique. Et Mme de Montigny, qui est passée, à tout le monde en parle récemment, qui prônait justement, ou qui parlait de sa crainte à elle, cette peur-là.
Elle a l'Alzheimer précoce, c'est ça, Mme de Montigny?
Exactement.
Voilà.
Exactement. Puis, si j'ai trouvé son témoignage, c'est une femme forte qui est très articulée, très intelligente. Puis, comme vous dites, je pense que c'est tout à fait légitime. Puis le problème, c'est qu'au lieu de dire, ben on va investir, on va améliorer les soins, on va améliorer l'accès aux soins d'équipes multidisciplinaires spécialisées, ben on dit, on va offrir plutôt ce soin-là qui, pour moi, ben c'est plutôt un aveu d'échec, puis un aveu aussi qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour nos gens qui sont vulnérables, les gens en situation d'handicap, les aînés avec démence. Donc, je la comprends.
OK. Mais je vais me permettre d'utiliser une expression populaire québécoise où on dit qu'on est capable de marcher puis de mâcher de la gomme en même temps. Est-ce qu'on peut pas faire les deux, Dr Pageau? C'est-à-dire permettre à ceux qui le souhaitent de demander de façon préalable, de façon anticipée, l'aide médicale à mourir et parallèlement à ça, donner des sous, donner des ressources pour s'assurer justement que les soins soient de meilleure qualité et soient appropriés. On peut faire les deux.
Mais en fait, le malaise, comme je vous dis, qui demeure, c'est que la décision est basée sur une idée qu'on choisit, qu'on fait un choix individuel à l'avance. Mais au final, c'est pas nous, c'est notre famille qui va décider. Puis c'est les médecins, l'équipe médicale qui vont prendre la décision avec la famille. Puis vous savez, quand on présente des soins, nous, comme médecins, on doit présenter les avantages, les inconvénients, tout ça, mais toujours dans la façon de présenter aussi, où on peut sentir qu'il faut qu'on avantage certains soins, comme l'aide médicale à mourir, ou qu'on avantage certains traitements avec lesquels on n'est pas nécessairement d'accord. Puis la famille, donc comme médecin, on peut ressentir la culpabilité, comme équipe de soins, puis comme famille aussi. Donc c'est un lourd fardeau quand on est bien intentionné. Mais si, comme je vous disais, on est mal intentionné, bien là, on est à risque encore plus de maltraitance, puis on en voit chez les personnes âgées qui sont vulnérables. Pas toutes les personnes âgées sont vulnérables, bien entendu, mais celles qui sont en situation de démence le sont vulnérables, sont à risque là, de maltraitance. C'est pour ça que nous, on veut pas ouvrir, parce qu'on se dit, les gens se disent, ben je veux choisir, je veux décider, mais au final, c'est pas eux qui choisissent, c'est pas eux qui décident. Puis, ils disent aussi, ben je veux pas avoir des mauvais soins. La solution, c'est d'avoir des bons soins. Fait que c'est un peu les points qui nous ont amenés à écrire cette lettre. Puis à...
Docteur Pageau, je vais vous poser une question très franche.
Oui.
Êtes-vous pour ou contre l'aide médicale à mourir?
Bien, l'aide médicale à mourir, quand la personne est autonome, qu'elle a des souffrances intolérables, comme médecin, avec l'empathie, moi, j'ai la difficulté à être contre pour une population bien précise. Mais je suis spécialisé en gériatrie, donc je vois pas nécessairement ces gens-là. Ça reste très théorique pour moi, ça c'est certain. Mais pour la population que je connais, dans la pratique, les gens que je traite, ça c'est certain que quand je parle de dans démence avancée par directive médicale anticipée, ça je suis franchement contre.
D'accord. Donc ça ne vous est jamais arrivé jusqu'ici que vous ayez à donner à quelqu'un l'aide médicale à mourir. Ça s'est jamais présenté à vous.
J'ai vu des gens à l'hôpital qui ont été évalués par des équipes qui ont reçu le soin. Je fais de la recherche aussi en éthique, en gériatrie, puis j'ai déjà interviewé des patients qui ont demandé l'aide médicale à mourir, puis qui étaient autonomes. Donc, c'est sûr que dans les moments où ils sont très souffrants, mais c'est sûr qu'il y avait aussi beaucoup l'élément, comme je vous disais, de se sentir un fardeau, il y a beaucoup de souffrances sociales au Québec, par rapport au fait d'être un fardeau. On veut être indépendant, on veut être autonome, mais souvent avec la maladie, puis on réalise qu'on l'est pas tant que ça. Puis de toute façon, comme être humain, vous savez, vous et moi, on a besoin de dépendre sur les autres pour avoir notre pain le matin, avoir nos légumes, nos fruits. Les agriculteurs ont besoin de leur médecin de famille en retour aussi pour être traités. Fait qu'on est tous un peu interdépendants. C'est juste que la maladie le met plus en relief. Puis cette souffrance-là, j'ai entendu beaucoup.
D'accord. Mais la notion de fardeau n'a jamais été un critère. C'est-à-dire que quand quelqu'un demande l'aide médicale à mourir, vous le savez, il y a des médecins qui évaluent la pertinence et savoir si la personne qui la demande correspond à des critères. Nulle part dans les critères, il n'est écrit « la personne se sent comme un fardeau ». Donc, si la seule motivation de quelqu'un qui demandait d'avoir l'aide médicale à mourir était « je suis un fardeau pour mes petits-enfants », elle ne l'obtiendrait pas. Donc, parce que ça revient souvent, la notion de fardeau, depuis le début, mais il faut dire aux gens, ça n'a jamais été un critère, ça n'est pas suffisant pour obtenir l'aide médicale à mourir.
Effectivement, puis les cas que j'ai vus où c'était une des conditions, effectivement, les gens disaient, j'ai mal, mais ça fluctue, mais en même temps, je suis un fardeau. Je suis souffrant, je suis triste, mais en même temps, je suis un fardeau. Donc, il y a la souffrance psychologique, puis la souffrance physique souvent, qui accompagne cette souffrance sociale que j'appelle cette notion de fardeau. C'est pas le critère. Souvent, il y a d'autres critères, puis c'est ça aussi que je vous dis, des fois, l'intérêt, la façon que c'est évalué, c'est pas non plus... toujours coupé au couteau, il y a beaucoup de jugement du professionnel qui évalue. Effectivement que sur papier, noir et blanc, c'est écrit une souffrance physique, souffrance mentale, mais dans la réalité, souvent cette espèce de souffrance-là sociale que j'ai nommée fardeau, un poids parfois même qui dépasse celui de la souffrance physique et mentale. Donc c'est pour ça ma crainte, ou la crainte en fait de notre regroupement des signataires, de dire, ben on le voit un peu, c'est sûr que dans les cas où les gens souffrent beaucoup, qui sont autonomes, est-ce qu'on les limite? Si on ne répond pas à la question, nous, c'est vraiment quand les gens ont une démence avancée, Puis que c'est un peu teinté par cette vision-là, ça s'étend de temps en temps.
Bon, l'autre, l'autre élément, vous dites, on dit aux gens, si vous avez demandé l'aide médicale à mourir de façon anticipée, donc de façon préalable, vous pensez que vous allez être autonome, donc c'est de façon tout à fait autonome, alors qu'en fait, au moment où ça va être fait, ben évidemment, vu que vous serez plus vous-même en état de le demander, ça va être vos proches ou les médecins. Oui, ben c'est justement pour ça qu'on le demande à l'avance, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on sera pas capable. Donc, les proches, la famille ou les médecins ne feront que mettre en action une demande qui aura été faite au moment où le patient est autonome.
Oui, ben en fait, c'est le... D'abord, l'autonomie, quand on prend une décision par rapport à ses soins, souvent, ça doit être expliqué. Puis là, il y a une problématique aussi avec les directives médicales anticipées. Les soins ne sont pas nécessairement toujours expliqués par un médecin, avec les pour, les contre, les effets secondaires, les effets bénéfiques.
Mais là, il le serait, docteur Pageau, au moment où la personne... Si moi, aujourd'hui, 26 février, je signe, je sous-signe Sophie Durocher, si je deviens à tel état de démence, je veux absolument avoir l'AMM. Mais je suis parfaitement autonome aujourd'hui, donc je veux et j'insiste qu'au moment où je vais l'être très malade, je veux qu'on me la donne, l'aide médicale à mourir. Il n'y a personne qui va pouvoir m'empêcher de signer cette lettre-là.
Mais en fait, l'important dans l'autonomie, c'est qu'elle soit libre et éclairée. Donc, dans un consentement éclairé, c'est vraiment l'aspect d'être bien informé. Donc, je ne sais pas si maintenant, aujourd'hui, vous savez exactement les risques et les conséquences d'avoir, par exemple, de la nutrition parentérale ou d'avoir une intubation soins intensifs ou d'avoir une hydratation par intraveineuse. Donc, la majorité des gens au Québec ne sont pas nécessairement au courant des effets. Puis c'est pour ça que je dis que ça doit être accompagné par un bien décrit par un professionnel de la santé. Ça, c'est une chose, mais vous avez raison que, bon, ça peut être fait. Puis la personne
rapidement,
peut devenir autonome
parce qu'il nous reste
30
secondes.
À ce moment-là. Ouais. Effectivement. Mais le problème aussi, c'est à la fin. C'est quand la personne est en démence avancée puis qu'elle a dit « je voulais ça », mais quand est-ce qu'on coupe puis on dit « maintenant, là, c'est vraiment le temps où vous avez atteint les critères ». Parce que ce que j'entendais beaucoup, c'est d'être en perte d'autonomie fonctionnelle, d'avoir une incontinence, d'avoir un problème au niveau de sa vie slavée. Mais les personnes qui sont rendues à ce moment-là sont peut-être pas souffrantes, sont peut-être bien dans la maladie avec les troubles cognitifs. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce qu'on appelle une démence heureuse, donc sont bien. Est-ce qu'on fait un soin par une autonomie antérieure qui a été demandée, puis qu'ensuite la famille juge à ce moment-là, ah oui, c'est ça que ça voulait dire au titre de la famille.
Je
donc
comprends.
C'est un jugement posé par la famille, le médecin, plutôt que vraiment de l'autonomie.
D'accord, mais c'est des questions absolument importantes, puis c'est important de les soulever. Docteur Félix Pageau, donc vous êtes médecin gériatre et vous avez signé cette lettre ouverte concernant l'aide médicale avancée de façon préalable. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci pour l'entrevue, au revoir.
Merci, ben c'est comme ça que ça se termine très très rapidement. On se retrouve lundi. Cube Radio.